Aujourd'hui, un voyage sous la Terre. On aime ça sur Radio Évasion, la radio du futur géoparc d'Armorique. On aime explorer le sous-sol et encore plus si on peut se promener dans les entrailles de la Terre grâce aux grottes. Alors c'est entendu, dans le Finistère, nous n'avons pas ces vastes cavités creusées par les eaux souterraines, souvent dans des sols calcaires, et qui portent parfois sur leurs parois la trace de passages humains très anciens. Pas de Lascaux ni de grottes Chauvet chez nous, mais nous avons les grottes marines de la baie de Douarnenez, des centaines de grottes. Rien que sur une zone plus réduite qu'est la baie de Morgat, il y en a 245. Notre invité les a toutes explorées, il peut nous en parler en profondeur puisqu'il est géologue. Ancien directeur de recherche du CNRS à l'Université de Rennes 1, spécialiste de stratigraphie, micropaléontologie, paléographie. Il est aussi membre du conseil scientifique de la réserve naturelle régionale de la presqu'île de Crozon. Bonjour Florentin Paris.
Bonjour.
Les grottes de la presqu'île, c'est un peu devenu votre passion, j'ai l'impression. Pourquoi ?
Eh oui, c'est... Bon, au départ, ce n'était pas du tout mon profil de géologue. Moi, j'ai travaillé sur une période qui commence... Enfin, disons que la période de temps que j'ai étudiée débutait à 481 millions d'années. Et puis, j'ai poursuivi jusqu'à 360 millions d'années. Donc, c'est une fourchette de temps très lointaine et qui n'a rien à voir... Enfin, rien à voir. On verra quand même un petit peu avec les grottes telles qu'on les voit actuellement. Et finalement, c'est lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de m'occuper un petit peu en regardant et en visitant, en explorant et en comptabilisant les différentes grottes, cette presqu'île de Crozon et également de la baie de Douarnenez.
Parce que c'est un peu l'aventure à chaque fois qu'on les explore.
C'est vraiment un petit peu l'aventure parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on va y trouver. L'ouverture, en général, quand on circule en bateau ou en kayak le long des falaises, on voit des cavités noires, des trous obscurs, des orbites vides. Et on se dit, c'est quoi derrière? Et en fait, il faut y pénétrer, mais à marée basse. Moi, je préconise la visite à marée basse parce qu'on peut accéder à l'ensemble de la cavité, y compris les boyaux qui peuvent se poursuivre sur près de 100 mètres dans l'intérieur des falaises. Donc c'est quelque chose qui laisse beaucoup de surprises, à la fois du point de vue des couleurs, des formes, de la complexité même architecturale des grottes.
On va parler des différents types de grottes que vous répertiriez, parce que quand même, il faut signaler aux auditeurs qu'on s'appuie sur un ouvrage grand public, accessible à tout le monde, qui s'appelle « Les grottes marines de la baie de Morgat, origine, diversité, évolution ».
C'est la maison des minéraux là, qui édite,
c'est du Centre de la Terre. Bien sûr.
Avec les grottes, ça allait de soi pour rejoindre Jules Verne.
Et la grande question, c'était évidemment, comment se sont formées ces grottes? Alors, c'est peut-être une question à tiroir, parce qu'il y a peut-être eu plusieurs types de formations. Vous allez me dire ça.
Oui, alors, les grottes, c'est... Bon, il faut d'abord regarder un petit peu. L'essentiel, c'est d'aller voir le long des falaises. C'est là qu'on peut avoir une idée un peu plus précise des processus du creusement et puis également des périodes de creusement. Quand on regarde une falaise, on voit un trait noir. C'est en fait un lichen qui pousse et qui marque la limite des hautes mers, des plus hautes mers. Donc ça vous donne une ligne, une horizontale, et qui vous permet de vous situer le plancher de la grotte et également son plafond. Et là, on constate chaque fois que le plafond est à 4-5 mètres au-dessus de ce trait noir qui marque la limite actuelle des plus hautes mers. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle limite actuelle, parce que rien n'est figé dans le temps et tout bouge, contrairement à ce qu'on imagine.
Nous, on le sait quand même.
Oui, beaucoup même. Et donc, ces grottes se sont installées en général sur des zones de faiblesse. Zones de faiblesse très anciennes, parce que ce sont par exemple, ça porte sur la nature de la roche. Les roches les plus argileuses sont plus fragiles, plus tendres, elles se creusent plus facilement. Bon, ça c'est quelque chose de facile à saisir.
Et il y en a chez nous, des roches argileuses,
Absolument, absolument. Et puis, il y a également les zones fracturées, qu'on appelle les failles, des zones broyées, donc des géologues. Et là, la mer, à chaque fois, va chercher le point de faiblesse. Elle va exploiter inlassablement, elle va continuer de creuser, de triturer et de faire progresser l'excavation qu'elle entame. Et puis il y a une troisième catégorie de roches qui est très intéressante dans Presqu'île. Il s'agit des roches volcaniques. Contrairement à ce qu'on imagine, la Presqu'île n'est pas faite exclusivement de roches sédimentaires, mais on a également le témoignage d'un volcanisme très ancien, 448 millions d'années, qui se traduit, bon, ceux qui connaissent un peu la presqu'île connaissent Ragnez, Rosan et puis Losmar. Voilà, ça, ce sont des sites qui, où on voit ce volcanisme, mais en fait, ce volcanisme était alimenté par une multitude de cheminées, de filons, et qui se trouvent donc actuellement exposés dans les parties anciennes, les plus roches les plus anciennes qu'elles ont traversées pour accéder à ce niveau-là. Et là, ces roches sont très fragiles, sensibles à l'érosion, en particulier l'érosion météorique, c'est-à-dire l'infiltration des eaux, et elles deviennent pulvérulentes, couleur chocolat, on dirait du pain d'épices en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est également très fragile, d'autant qu'elles ont également subi les contraintes tectoniques. Il y a 300 millions d'années à peu près, et qui les ont écrasées, ces contraintes ont écrasé ces roches volcaniques.
Quand il y a une chaîne de montagnes qui s'est formée.
Voilà, tout à fait, la fameuse chaîne Varisque,
ou
anciennement Hercynienne.
Ah oui, elle a changé de nom en fait.
Oui, on appelle
Varisque. Elle est peut-être plus connue sous le nom Hercynienne.
Oui, mais les géologues, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, se sont mis à utiliser le terme Varisque, c'est-à-dire un événement tectonique d'ampleur vraiment extraordinaire qui était l'affrontement de deux grandes plaques continentales, c'est-à-dire le Gondwana d'une part, qui venait du sud, et puis qui portait notre Bretagne, et d'autre part la Laurussia, qui était constituée de l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, la Scandinavie, la plateforme russe, et puis une partie de l'Angleterre.
Il en reste d'ailleurs, les Appalaches sont un...
Les Appalaches sont l'équivalent, ça se prolonge même jusqu'au Nouveau-Mexique. Hein. Cette chaîne, c'était vraiment quelque chose d'absolument immense. Et vers l'est, c'est vers la mer Noire qu'elle s'achève.
Donc ça,
c'était
ça fragilise...
un truc absolument énorme. Et lors de ces contraintes, ces poussées, il y a eu des plissements, évidemment. Il y a eu des fracturations majeures. Je ne vous dis pas le nombre de tremblements de terre qu'il y a pu y avoir et de très forte magnitude à ce moment-là et même par la suite. Et puis les roches, en s'enfonçant sous l'effet de la surcharge sédimentaire d'une part, mais également des plissements qui vont faire chevaucher ce qu'on appelle des chevauchements, des écaillages. Donc on va avoir des surépaississements de la croûte terrestre et certains dépôts vont être transportés à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, avec des températures et des pressions absolument énormes qui vont modifier la texture de ces roches.
Donc ça fragilise les roches et du coup...
On a en potentiel toute la panoplie nécessaire pour faire les grottes. Ça veut dire qu'en fait, c'était déjà présent. Les fissures, les failles, tout ce, et puis évidemment le matériel sédimentaire était déjà présent il y a plus de 300 millions d'années.
Mais la mer a agi de camp à camp, en fait, pour
alors,
creuser.
Alors là, ça, c'est une période. On fait un grand saut dans le temps. On passe à la période quaternaire, la période récente, c'est-à-dire le quaternaire de 2,6 millions d'années. C'est une jeunesse. Moi, mon échelle de mesure, c'était le million d'années. Vous voyez, c'était donc 2 millions, c'est relativement dans les intervalles d'incertitude. Ceci dit, cette période quaternaire est assez fondamentale dans le sens où on a assisté à une glaciation d'ordre mondial. C'est-à-dire qu'un refroidissement a commencé à s'opérer il y a 6-7 millions d'années. Déjà, on a commencé dans l'Antarctique. La calotte glaciaire s'est développée il y a déjà 30 millions d'années. C'est très ancien par rapport à notre quaternaire de l'hémisphère nord. Mais enfin, toujours est-il que progressivement, on a eu une calotte glaciaire qui s'est installée sur toute la partie nord de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ce qu'on appelle l'Inland 6, oui, ou calotte glaciaire, et qui pouvait avoir plusieurs kilomètres d'épaisseur. C'est quelque chose d'assez monstrueux et on comprend bien que le pompage de l'eau, puisque finalement cette glace stocke en fait l'eau de mer qui s'était évaporée et en conséquence il y a une baisse du niveau marin qui est proportionnelle à l'épaisseur de la couche de glace qui est déposée sur les continents. La glace sur mer est négligeable. On nous parle souvent de la glace de l'Arctique. C'est une glace de mer. C'est quelques mètres d'épaisseur. Ça ne peut pas atteindre des kilomètres d'épaisseur comme sur un continent. Donc là, il y a quand même une limite. Et ce quaternaire a vu des fluctuations du développement de cette calotte glaciaire en fonction du climat. Les périodes froides, donc croissance de la calotte glaciaire, période chaude, parce qu'il y en avait quand même quelques, on appelle ça des interglaciaires, avec un réchauffement climatique qui pouvait être supérieur aux températures moyennes actuelles. Hein. Il y a 125 000 ans à peu près, on a eu une période où la température moyenne était 4 à 5 degrés supérieure à ce qu'on a actuellement. Donc ça nous reporte un petit peu au problème actuel des réchauffements climatiques et autres. Et ça nous montre que l'homme a quand même survécu à ces périodes-là. Même
bon, s'ils étaient moins nombreux.
Ils étaient moins nombreux. Et c'est, je crois, là, le très, 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 très gros problème. C'est la croissance exponentielle de notre population. Mais ça, c'est un autre problème, oui. Et en ce qui concerne donc le creusement des grottes, puisque c'est l'objectif de cette petite causerie, les grottes, en fait, se creusent là où l'énergie marine est déployée. Et cette énergie marine se déploie essentiellement dans la zone de battement des marées. C'est-à-dire, dans notre région ici, c'est sur un intervalle de, on appelle ça le marnage, de 7 mètres, 7 mètres 50. Voilà. C'est dans cette zone-là que l'énergie marine est restituée de la façon la plus efficace, sous forme de houle et de vagues. Il suffit de voir la dernière tempête qu'on a eue ces 3 ou 4 derniers jours, là.
Oui.
Il y en a de temps en temps.
Oui, il y en a de temps en temps.
Oui. Et là, on voit tout de suite ce qui peut être mobilisé, c'est-à-dire des petits graviers, voire des blocs de plusieurs kilos.
Oui,
voire
donc la mer projette, en fait.
Voilà, ça, c'est, et il y a un sablage qui se fait par la projection des particules qui sont sur le sol, et puis les gros blocs qui peuvent être fracassés contre les parois. C'est vraiment très énergétique, hein, c'est vraiment une énergie très importante. Et cette énergie, en fait, elle est puisée tout simplement sur une histoire de différence de température entre l'eau de mer et l'air. Mm-hmm. C'est là. La mécanique se situe là et elle peut se développer très loin de nos côtes. Et c'est finalement, ça arrive sous forme de train d'onde, c'est ce qu'on appelle la houle. Et plus la longueur d'onde est importante, plus l'énergie va être déployée, va être importante.
Mais l'essentiel du creusement, il a commencé quand alors ?
Alors, dans le cas présent, c'est dès que la mer s'est trouvée à cette hauteur-là. Alors, on va reculer dans le temps. On va commencer par la période la plus récente. La mer est arrivée au niveau actuel il y a 5000 ans. C'est très peu de choses, c'est très récent.
C'était hier,
si vous voulez, dans notre échelle, surtout pour moi qui parle en millions d'années. Donc, effectivement, on a eu effectivement un retour de la mer. Je précise bien un retour de la mer, parce qu'elle était déjà venue avant à cet endroit-là, la mer. Et c'est lorsque le niveau marin se situe à la hauteur donc, des marées actuelles, c'est là que ça creuse.
Mais ça avait commencé avant. Ça n'a pas commencé il y a 5000
bien
ans.
Bien sûr que ça avait commencé avant, mais seulement avant 5000 ans, on était en période de grand froid. Lascaux, par exemple, 17000 ans, c'était les grands froids. Le niveau de la mer était très bas. La baie d'Ouarnanez était vide de son eau. À certaines périodes de baisse de niveau marin, le rivage était repoussé au-delà de l'île de Sein. Donc, vous aviez toute une zone qui était dégagée et dans laquelle pouvait pousser une toundra ou une végétation des régions froides.
Mais il y avait déjà eu des niveaux marins suffisants pour commencer à creuser avant.
Justement. Et c'est là que l'expérience des grottes de la baie de Morgat a été tout à fait révélatrice d'un phénomène. C'est que j'ai trouvé finalement des traces de dépôts marins au plafond des grottes. Et là, ça pose un gros problème. Parce que ça veut dire que le niveau de la mer a été à 4-5 mètres au-dessus du niveau actuel. Et il faut rechercher dans les archives géologiques récentes les périodes qui peuvent coïncider avec ce type de haut niveau marin. Et là, il y a plusieurs candidats. Il y a 125 000 ans, les miens par exemple, période qui est assez bien connue. Et puis d'autre part, il y a d'autres périodes à haut niveau marin, comme ça, il y a 340 000 ans, il y a 410 000 ans. Bon, vous voyez, on a plusieurs, ce sont les interglaciaires en fait, hein, où le niveau de la mer est revenu à son niveau actuel, ou légèrement plus bas, légèrement au-dessus. Parce que bon, il y a un autre élément qui doit être pris en compte dans toute cette évaluation, c'est il faudrait que le niveau de la Terre, enfin la surface du sol, soit stable. Ce n'est pas le cas. il y a des petits mouvements, on appelle ça des, de la néotectonique.
Liés, on les sent, de toute façon, on les
oui,
sent un petit
oui,
peu.
Oui, on a. Et surtout, c'était lié à la surcharge de glace. Quand vous avez 4 km, 5 km de glace au-dessus du continent,
ça
s'enfonce. La glace fond plus vite que la remontée. Et donc, on a un réajustement qui s'opère comme ça dans le temps. Et donc, il faut décrypter ce qui relève de ce type de mouvement du sol et ce qui relève plus précisément des variations du niveau marin.
Donc vous pensez quand même que les grottes de Morgat, de la baie de Morgat, ont été creusées il y a plutôt 150, enfin 120
000 ans. Alors, pour moi, elles ont commencé à se creuser plus de 500 000 ans.
D'accord.
Certainement. Et en fait, ce que l'on observe, c'est un emboîtement de creusement. En fait, c'est comme si on emboîtait les poupées gigognes russes, là. En ce qui concerne, par exemple, les niveaux de galets marins collés au plafond des grottes, là, il y a un élément qui joue. C'est si ces grottes, si ces galets sont là-haut, c'est que la grotte, il y avait une grotte antérieurement. Elle avait été comblée par ces galets. Et puis, quand le niveau de la mer a redescendu, il a été surcreusé. On commençait à évider cette partie. Et le retour actuel de la mer a complété cet évitement. Mais comme le niveau n'est pas monté jusqu'au plafond, on a ces restes-là. Et ce n'est pas négligeable. Il y a, j'en connais une trentaine à peu près de grottes avec des galets au plafond comme ça.
Et alors, vous avez identifié plusieurs types de grottes, combien ?
Tout à fait. Alors, ça, c'est
une typologie.
C'est un choix un petit peu arbitraire. C'était au fur et à mesure de la rédaction que je décidais des types de grottes. C'est un petit peu comme le qualificatif de grotte marine. Il a bien fallu faire un choix entre les petites cavités. Quand est-ce qu'on peut parler de grottes ? Et moi, j'ai décidé arbitrairement qu'il fallait qu'elles aient 5 mètres de profondeur et que je puisse m'y tenir à peu près debout, au moins, enfin, pratiquement, quoi.
Oui, sinon, ce n'est pas une grotte, quoi.
Oui, c'est
d'accord,
un petit surplomb. Alors, il faut éviter également de la confusion avec les surplombs. Vous pouvez avoir des grands surplombs rocheux, les abris sous roche, qui ne sont pas des grottes, qui sont... c'est autre chose, et qui étaient d'ailleurs utilisés par les chasseurs du paléolithique pour servir d'abri également.
Il faut qu'il y ait un boyau, en fait,
voilà, oui,
en quelque
moi
sorte.
Vous avez tous les types de grottes. Vous avez la grotte simple aussi, c'est une cavité qui s'élargit un petit peu au centre, avec une entrée un peu plus étroite. Le tout dépend du nombre de fractures et de niveaux qui vont s'entrecroiser dans cet espace. De temps en temps, vous avez des grottes dans lesquelles les boyaux partent latéralement le long de la falaise. Et ça peut s'étendre, c'est parce que tout simplement, il y a là une fracture qui est parallèle à la falaise et la mer va exploiter cette faiblesse et s'acharner dessus pour creuser.
Et vous avez des tunnels aussi, avec deux,
alors,
deux entrées.
Oui, il y a des tunnels. Oh, il y a beaucoup de catégories. Il y a les grottes à entrées multiples.
Voilà,
ça, c'est il y a quelques exemples. Bon, ça veut dire qu'il y a une paroi qui est relativement mince et qui a pu être traversée par soit une petite faille, ou c'est souvent d'ailleurs le parcours d'un filonnet de roche volcanique qui donne une zone de faiblesse et qui a été exploité par la mer pour creuser. Et puis, vous avez les vrais tunnels. Certains font 35 mètres de long,
ah oui,
comme ça.
Voire c'est... plus, non ? Ça va jusqu'à 50 mètres ou plus,
Oui. J'ai en mémoire un à Bégarbous qui est superbe parce qu'il est tapissé d'organismes marins avec des belles couleurs orange et trucs comme ça. C'est vraiment spectaculaire. Et surtout, quand la mer s'engouffre d'un côté, vous voyez un geyser sortir de l'autre bout.
Oui, parce qu'il y a des grottes avec des fenêtres, enfin des fenêtres, ce qu'on appelle des évents, c'est ça quand il y a
absolument
eu un effondrement.
Alors là, ça c'est encore une autre catégorie, ça c'est une catégorie, j'en connais une dizaine, une quinzaine, avec une ouverture au plafond. C'est-à-dire que la grotte communique avec la surface du sol. Il y en a à Postolonec, il y en a... Alors, il y a un cas assez exceptionnel qui est en formation actuellement. Il se trouve à la pointe du sud-est du Cap de la Chèvre. Et récemment, enfin, en janvier 2016, il y a un trou qui s'est ouvert, un trou comme ça, dans le sentier de randonnée, au milieu du sentier de randonnée. Et ça s'est effondré. Bon,
personne n'est tombé.
Un chien est tombé, il a fallu les secours pour sortir le chien. Et puis moi j'ai tout de suite réalisé qu'on avait là une connexion avec ma grotte 30 de l'Anse Saint-Nicolas. Et effectivement, je suis descendu et j'ai regardé. Il y avait une coulée de boue à la base. Et donc, il y a un soutirage qui s'effectue constamment à marée haute. D'ailleurs, on voit un panache d'eau boueuse à la sortie de la grotte lors des grandes marées. Ça, quand ça secoue un petit peu. Et là, je suis retourné en début d'année, en début de 2019. Alors, le petit trou de 1,50 m ou 2 m de diamètre et de quelques mètres de profondeur, c'est maintenant une cavité, un entonnoir de quelques 10 mètres de diamètre et d'une quinzaine de mètres de profondeur. Mais ça ne communique pas encore. Il y a toujours des effondrements qui s'opèrent et qui donc colmatent un petit peu la trémie et jusqu'à ce que la mer ait tout déblayé. La mer fait ça tranquillement. Et il y a une petite plage qui est en train de se développer à l'avant de la grotte, justement par les déblais qui viennent de...
Une plage de sable. Ouais.
Et c'est très souvent, ces évents résultent très souvent de filons volcaniques. Et je pense, enfin, je n'ai pas encore la certitude, mais ce qu'on appelle la cheminée du diable... La fameuse cheminée du diable à Morgat risque d'être quelque chose qui est installé sur un filon, juste à une centaine de mètres au sud. Il y a effectivement un filon qui dessine une tranchée comme ça. Et là, les éboulis masquent la roche originelle, donc je n'ai pas pu le vérifier. Mais je soupçonne vraiment fortement qu'il y a là un filon qui s'est ouvert au plafond.
Et quand il y a geyser, vous parliez de geyser, c'est parce qu'il y a l'eau qui est poussée et qui sort par les évents.
Il y a surpression. Alors, c'est un également des paramètres que l'on doit prendre en compte dans le creusement des grottes. Les surpressions, vous avez comme un entonnoir, et puis les goulottes, les boyaux. Et là, l'énergie est concentrée sur une petite surface. Et là, ça, c'est vraiment efficace comme pression. Et ça va avoir tendance à s'infiltrer, l'eau va tendance à s'infiltrer entre les feuillets de la roche, les dissocier, et ça va participer, je pense, au phénomène d'excavation. Ajouter au galet, projeter, enfin bon, il y a tout le type.
C'est toujours une action mécanique, il n'y a quasiment pas d'action chimique.
C'est...
Parce qu'il y a du sel, je ne sais pas, ça pourrait ronger la roche.
Oui, absolument, non, vous avez raison. Lorsque le sel s'évapore, par exemple, quand l'eau de mer s'infiltre dans les roches feuilletées, il faut qu'elles soient feuilletées, en séchant, les cristaux de sel vont gonfler et faire éclater un petit peu la roche. C'est la même chose qui se passe avec le gel. Lorsque vous avez de l'eau qui s'infiltre, lorsque la roche gèle, on appelle ça la gélifraction, et l'eau va augmenter de volume et faire éclater la roche. C'est un processus qui existe en montagne et qui existait également ici, puisqu'on a été soumis à des climats nettement plus froids qu'à l'actuel. Donc je pense que les parois des grottes ont dû souffrir des mêmes phénomènes de gélifraction. Mais bon, c'était momentané.
Oui. Vous avez déjà un petit peu décrit le phénomène, mais il y a des couleurs différentes dans les grottes. Et alors, à quoi elles sont dues, toutes ces couleurs ?
Alors, c'est vrai que les couleurs, c'est ce qui a d'ailleurs frappé les premiers visiteurs. Les descriptions du fin 18e, début 19e siècle font état de couleurs faisant appel à toutes les roches et les pierres précieuses et semi-précieuses. Il y a vraiment un vocabulaire luxuriant de termes, escarboucle, topaze, émeraude, enfin bon. De fait, c'est vrai qu'il y a des couleurs absolument fabuleuses à l'intérieur des grottes et ça peut surprendre. Alors, il y a plusieurs origines. Il y a surtout des algues encroûtantes.
Ah oui, c'est pas la nature des roches.
Non. Enfin, bon, il y en a aussi. Mais l'essentiel, les couleurs vertes, c'est souvent une petite algue à chlorophylle. Et puis des teintes rouges, c'est également une algue qui teinte la surface de la roche. D'ailleurs, si vous cassez la roche, ça ne se poursuit pas à l'intérieur. C'est juste en surface. Hein. Vous avez aussi des teintes ocres. Là, c'est minéral. Ce sont des cristallisations d'oxyde de fer. Là, il y a une grotte que j'ai appelée la grotte rouge. Rouge en breton, c'est roux, quoi, enfin ocre. Et parce qu'il y a là des venues d'oxyde de fer, limonite, hématite, et qui proviennent du lessivage, sans doute de parties plus pyriteuses dans la roche. Il faut qu'il y ait du fer de disponible. Le grès lui-même, le grès armoricain tout blanc, est à 98-99% constitué de silice, donc quelque chose de très stable. Il faut d'autres éléments, comme des micas qui contiennent du fer également, d'autres minéraux également, des argiles, des chlorites, des éléments comme ça qui peuvent fournir le fer. Et ce fer se trouve libéré à des périodes très précises, en période de climat très oxydant, chaud et humide, c'est-à-dire au cours des interglaciaires avec chaleur.
Donc en ce moment, par exemple.
Oui, on va voir les grottes se tâter avec de l'oxyde de fer. Et cet oxyde de fer, on voit des coulures. C'est assez beau d'ailleurs, ça fait comme des petites coulures qui se déplacent au gré des courants d'air dans les grottes. Et oui, c'est vraiment, ça peut être spectaculaire. Hein. Dans certains cas, c'est vraiment très spectaculaire. J'ai moi-même été surpris quand j'ai vu mes photos. Bon, j'en ai fait beaucoup de photos. Il y en a, je ne sais pas loin de 10 000 photos dans les grottes de Morgat. Plus ça allait, plus je multipliais les photos, parce que moi-même, je trouvais ça joli. Et il y a eu des ouvrages, d'ailleurs, sur les grottes, avec vraiment des présentations artistiques de ces grottes, avec des couleurs. Et le plus souvent, elles sont vraiment naturelles. Photoshop n'y est pas pour grand-chose. Non.
Alors, on peut voir des couleurs. Et on peut voir aussi, alors on ne voit pas des concrétions vraiment, hein, pas de stalactites
un petit peu, dans certains cas, non. C'est de l'ordre du centimètre ou des petites tubulures d'oxyde de fer. Il y a l'eau qui perle au plafond, donc qui coule. C'est le même processus que les stalactites, stalagmites, sauf qu'ici on est en domaine siliceux et donc on n'a pas la calcite à se développer, à se déposer comme dans l'Ariège ou finalement la Dordogne. Quoi. C'est ça. La grande différence, hein, ça je crois qu'il faut vraiment le noter, ce sont deux mondes totalement différents. Les grottes préhistoriques de l'Ardèche, du Périgord et tout ça, c'est un autre phénomène totalement différent. C'est de la dissolution par des eaux très acides, c'est-à-dire des eaux froides chargées en gaz carbonique et qui dissolvent et qui creusent des cavités absolument fabuleuses. Et la grande différence d'ailleurs, c'est que dans ces régions calcaires, on peut avoir des avennes, on peut avoir des gouffres, des choses qui se développent sur des profondeurs, en verticalement sur plusieurs centaines de mètres. Les grottes, non, jamais, c'est à l'horizontale. Ça se passe toujours horizontalement, c'est-à-dire dans l'axe de la percussion des vagues de la houle.
On voit aussi des traces finalement assez nombreuses, fossiles, alors soit des traces de fonds marins ou d'animaux.
Oui, alors ça a été mon grand plaisir de découvrir ces choses-là. Finalement, les géologues qui ont travaillé sur la presqu'île, ils ont eu tendance à aller toujours dans les coupes un peu exceptionnelles, connues et facilement accessibles. Peu de gens se sont aventurés au pied des falaises et dans les grottes, et malheureusement pour eux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à voir, parce qu'on a des surfaces polies par la mer, c'est vraiment très beau, on voit très bien la structure interne de la roche, et puis d'autre part, on découvre également toute une activité biologique qu'on ignorait au départ, les scieries rouges, on appelle ça les scieries rouges, ce sont les terrains paléozoïques les plus anciens de la presqu'île.
Donc c'est quoi, c'est 540
Non, c'est 480 millions d'années.
Hein, pas mal déjà.
Oui, c'est vrai. Et on trouve ça à Begarguin. Begarguin, c'est la couleur du vin, c'est lit de vin, teinte lit de vin, et au Cap de la Chèvre. C'est les deux seuls endroits où on trouve ce type de roche. Et les géologues, au départ, pensaient que c'était des dépôts, disons, plus ou moins continentaux, lessivage d'un domaine altéré. Et en réalité, non. Dès la base, on trouve une activité organique très soutenue, des terriers verticaux. Donc, ce sont des vers qui se développaient là-dedans. Et puis, surtout, des traces que j'avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver. Ce sont des traces bilobées. On appelle ça des bilobites. C'était connu dans le grès armoricain, qui est un petit peu plus récent, 5 millions d'années de plus jeune, ou 2 millions d'années plus jeune. Mais là, c'était vraiment les premières traces, et j'en ai trouvé d'assez vraiment spectaculaires. Il y en a une à Bicarbus qui fait 1,50 m de long et de doublé. Alors, je ne sais pas si c'est un comportement de deux organismes qui se déplaçaient en parallèle ou quoi, parce que c'est vraiment très inhabituel.
C'est quoi? C'est des trilobites qui se déplacent
Oui, je pense que c'était des trilobites qui se déplaçaient. Mais malheureusement, quand on trouve les traces, on ne trouve pas les organismes eux-mêmes.
Oui, il n'y a pas beaucoup de traces d'organismes.
Ah non, je connais quelques trilobites dans le grès armoricain. C'est sous forme de pygidium ou de grands anneaux. C'était quand même des bestioles assez larges. Elles faisaient 20 cm de largeur. C'était des belles bêtes, quoi. Et puis, dans une maison, dans le grès d'une maison, dans le mur, il y a des anneaux et des morceaux de trilobites, comme ça, du grès américain, qui sont conservés.
Il n'y a jamais de fossiles d'algues ?
Alors, il y a plein de choses qui ressemblent à des algues, mais qui sont en réalité des traces d'activité organique de verre. Oui, ce ne sont pas des vraies algues. D'ailleurs, même les spécialistes, quelquefois, s'y trompent parce que dans la formation de l'armorique, c'est quelque chose qui est représenté à la Fraternité et puis à Plougastel. On avait cru trouver des plantes fossiles comme ça. Et en fait, c'était des terriers d'organismes fuisseurs à plat et qui étaient compressés. On s'en est rendu compte après, mais bon, ça c'est... Vous savez, les géologues se trompent également, hein, les paléontologues.
Mais vous la rassurez.
Oui.
Et puis, il y a les traces, les fameuses ribble marks.
Hein, alors là, il y a une autre catégorie de figures, qu'on appelle ça figures sédimentaires. Il y a effectivement ces belles rides de courant, que l'on appelle ripple mark en terme anglais, et qui se développent sous l'action du vent. Le terme anglais, c'est, traduit en français, rides de beau temps. C'est-à-dire, ça se passe sous une tranche d'eau de moins de 10-15 mètres. Et donc, vous avez ces petites rides. Et pour les plongeurs sous-marins, c'est un guide très fiable puisqu'elles se développent parallèlement à la côte. Et si vous n'avez pas une bonne visibilité, vous pouvez suivre perpendiculairement ces rides et vous arrivez à la côte. Et puis, il y a d'autres choses qui, là, m'a également tout à fait étonné. Ce sont des figures de ruissellement. Ça veut dire qu'on a l'équivalent de plages émergées à marée basse et sur lesquelles il y avait des petits graviers, des petits cailloux et il y a des figures en croissant tout autour. Ça dessine des croissants, c'est le ruissellement dans la pente qui creuse autour et ça, vous pouvez le regarder sur toutes les plages, que ce soit à la palue ou quand il y a un peu de pente et disons de bonne vagues qui arrivent dessus et on voit ces figures en croissant avec un creusement à l'amont du côté haut de la pente.
Sauf que là, le sol s'est fossilisé. En fait.
Là, c'est fossilisé. Il y a vraiment des exemples tout à fait... J'en connais plusieurs endroits et qui sont vraiment très spectaculaires. Dans les livres, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau.
Alors, ces noms... Alors là, peut-être un peu plus rapidement, oui. Les grottes, elles ont... Toutes des noms, pas toujours poétiques. Enfin, il y a un nom de base et puis après, il y a des lettres et des chiffres.
Oui, moi, j'ai été confronté à un problème de toponymie. Quand on regarde la carte IGN aux 25 000, elle est pauvre en repères du point de vue nom de lieu, nom de crique et autres. Par contre, nos anciens, les pêcheurs locaux, avaient toute une terminologie en breton. Et que j'ai cherché à valoriser et à remettre au goût du jour. C'est Jean-Jacques Kerdreux qui a fait une collecte vraiment impressionnante de tous ces termes. Et j'en ai longuement discuté avec lui parce que ça m'a permis en fait de renouer avec le breton de mon enfance. Moi, je n'ai parlé français qu'à 6 ans. Oui, j'ai sans doute un des rares bretonnants d'origine comme ça. Et là, moi je viens du Trégor, donc il y a quelques petites nuances dans le parler. Mais je reconnaissais quand même la signification de tous ces différents points. Et ça a été d'un grand secours parce que finalement, on se dit, il suffit de prendre une photo. Ce n'est pas vrai. Si on s'éloigne, se déplace de 10 mètres, l'angle de vue va être différent et l'aspect, mais c'est vraiment incroyable.
On peut confondre les grottes.
On peut confondre.
Si on ne les nomme pas,
oui.
On s'y perd.
Alors moi, j'ai pris le parti, pour faire ma base de données, pour me retrouver dans ma base de données, j'ai pris le parti de séquencer la côte en différents secteurs géographiques.
Vous prenez le lieu dit en breton et puis après vous faites
et ensuite j'ai mis une terminologie en chiffres qui me permettait de progresser, de m'y retrouver et j'ai évidemment pris les coordonnées GPS de tous ces points-là.
Donc vous en avez nommé 245 ou 500 ?
Alors là dans mon petit opuscule j'en ai cité 245 qui sont celles de la baie de Morgat proprement dite, c'est-à-dire depuis Le Guern jusqu'à Main Cause à la pointe sud-est du Cap de la Chèvre. Mais en tout, j'en ai pour l'instant repéré 540.
Donc sur la presqu'île uniquement, quoi.
Oui, sur la presqu'île, mais enfin également sur la rade quand même. Mais sur la rade, il y en a relativement peu. Ce qui m'amène à parler d'un fait tout à fait curieux. On pouvait imaginer, a priori, c'est assez immédiat, que les roches tendres allaient avoir beaucoup de cavernes, enfin de grottes, on va employer le terme grottes marines. Assez curieusement, elles sont excessivement peu nombreuses. Et la raison en est également très simple, c'est parce que le recul de la côte allait au moins aussi vite que le creusement des grottes. Et donc, elles n'ont pas subsisté.
Elles ont existé, mais elles ont disparu.
Elles existent et puis elles disparaissent avec le recul de la côte, quand c'est très fragile. Ceci est vrai pour la rade de Brest, où pourtant il n'y a pas une grosse activité de vagues ni de tempêtes. C'est quand même protégé. Un autre paradoxe également, on pouvait imaginer que sur la face ouest de la presqu'île, c'est-à-dire sur le large, le grand large, recevant la grande houle lors des tempêtes et tout comme ça, ce qui peut être absolument spectaculaire avec la mer toute blanche tout le long. Là, assez paradoxalement, très très peu de grottes. Et il y a une raison très simple, c'est que les couches géologiques penchent vers la mer et ça fait comme les tuiles sur un toit, elles se superposent et se protègent mutuellement. Donc vous avez juste un banc qui s'en va. Et puis l'autre est là et protège. À l'inverse, l'autre côté de la pointe du Cap de la Chèvre, dans l'Anse Saint-Nicolas, les couches plongent vers la terre et se trouvent de ce fait en surplomb par rapport à l'eau. Et là, la gravité va jouer son rôle universel, c'est-à-dire faire tomber tous les blocs qui sont un petit peu désarçonnés, fragilisés par les chocs et par... les infiltrations.
Mais face aux grottes dont vous parlez, oui. De l'autre côté de la baie d'Ornenay, en fait, quand on va au sud de la Pointe du Raz, si on veut,
oui.
Les grottes, la plupart des grottes, ont leurs plafonds qui se sont effondrés. Enfin, c'est en tout cas l'impression qu'on a.
Bon, ici, on a également quelques grottes à plafond effondré. J'y place beaucoup d'espoir, parce que je me dis qu'après tout, peut-être que ces effondrements ont protégé des traces d'activité humaine. C'est comme ça s'est passé, c'est le cas à Ménesdregan, donc à Plounec.
À Ménesdregan, voilà, c'est ouais. La grotte qui a 450 000 ans, en tout
oui,
cas,
ça discute, comme toujours, les archéologues et...
Il y a des traces de passage humain, en tout cas. Il y a des traces de passage humain d'il y a 450 000
absolument,
ans.
Absolument, il y a traces
ça,
de foyers.
Voilà,
il y a
indéniable.
Et de l'outillage. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est un point. C'est un grand site. C'est pas uniquement
européen,
de Bretagne,
très, très
c'est européen. Ouais. C'est vraiment un très grand site. Hein. Et c'est mon collègue de l'Université de Rennes qui avait débuté les travaux. Et Jean-Laurent Monnier.
Et c'est une ancienne grotte, mais qui n'a plus de plafond, donc ce n'est plus une grotte.
Le plafond s'est effondré. Ce n'était pas des grandes grottes. Hein. Le plafond s'était effondré et a protégé finalement le contenu, c'est-à-dire toute l'historique des habitations, enfin, des fréquentations. Parce que, je ne pense pas que les paléolithiques habitaient réellement les grottes. Ils vivaient à l'entrée un petit peu.
Ils s'abritaient.
Oui, c'était un abri comme ça. Il faut dire qu'ils étaient privilégiés ici en presqu'île avec les 250 sur la baie de Douarnenez et le reste sur l'autre côté. Ils avaient de quoi voir venir. On pouvait changer de maison de temps en temps. C'était pas cher. S'il n'y avait pas d'entretien. Et c'était solide. La preuve, c'est que je pense la plupart de ces grottes sur le Cap de la Chèvre et dans le grès américain, elles ont au minimum 500 000 ans. Elles existaient déjà il y a 500 000 ans et peut-être même avant.
Quels ont été leurs autres usages humains
les usages humains, oui. il y a les légendes, évidemment. Il y a les lieux de repos des sirènes et autres. Mais bon, moi, j'y crois pas trop quand même. il y a eu aussi la fameuse grotte de l'hôtel qui a été illustrée à plusieurs reprises dans la littérature début du 19e siècle, où on voit un prêtre officier sur la roche de l'hôtel. En fait, non.
C'est pas possible.
C'est pas possible. On nous présentait des bateaux sous voile à l'intérieur de la grotte.
Il n'y a pas la place.
Il n'y a pas la place, il n'y a pas de vent, ou peu. Enfin bon, non. Ceci dit, ces grottes, comme elles sont noyées pratiquement tous les jours, laisse peu de place à une habitation pérenne.
C'est ça, on ne peut pas s'y installer, quoi. On peut à la limite s'y réfugier pendant la guerre, c'est
si
ça
on a, si on a un bon calendrier des marées, on peut calculer des périodes d'occupation entre deux grandes marées, parce qu'il y a des grottes qui sont, dont le plancher se trouve au niveau des plus basses mers, et d'autres dont le plancher se trouve quasiment au niveau des hautes mers. C'est-à-dire qu'elles sont visitables presque à marée haute. Certaines grottes.
Et elles sont presque tout
on appelle
sec.
Ça supratidal. Mais bon, c'est pas très. Je ne pense pas qu'elles étaient habitées. Alors, par contre, il y a eu quand même des témoignages. Alors, il y a la fameuse grotte des Normands. Je pense également que c'est une légende. On a prétendu que les Vikings venaient s'y abriter avant de faire leur raid.
Oui, cacher leur butin, peut-être.
Alors là, c'était à l'étroit, hein, surtout à marée haute. Hein. Je crois que c'est un peu. Même un drakkar aurait du mal à subsister là-dedans. Non, il y a eu des témoignages vraiment très concrets durant la guerre, les bombardements, en particulier à la libération, des gens allaient s'abriter dans les grottes. Ils étaient quand même assez sûrs d'eux parce que finalement, une bombe tombant pas loin pouvait faire tomber également le plafond de la grotte. Hein. C'est parce qu'on voit des blocs qui tombent. Hein. On voit d'énormes blocs qui se sont détachés des voûtes dans certaines grottes, des blocs de plusieurs tonnes. Et bon, qui commencent à un petit peu s'user sur leur côté. Donc, il est assez difficile de déterminer le moment de la chute. Mais dans d'autres endroits, on voit des blocs anguleux, non incrustés d'organismes marins. Et là, c'est un lieu qu'il faut éviter de fréquenter parce que ça veut dire que les pierres tombent encore actuellement.
Si les blocs ont l'air frais, il ne faut pas y aller.
Les arêtes anguleuses et puis pas d'incrustation de d'algues ou d'autres organismes, là il faut fuir. C'est risqué.
Et quel est l'avenir de ces grottes, justement? Elles vont disparaître. Nul n'est éternel, mais quand?
Alors, moi, j'ai tendance à penser que nos falaises sont quand même très solides. J'ai le sentiment qu'en 500 000 ans, elles n'ont pratiquement pas reculé. Les falaises de grès, j'entends, de quartzite, de grès armoricain, c'est-à-dire le cap de la chèvre. En revanche, les zones qui sont plus basses actuellement, les Anses, l'Anse de Morgat, l'Anse de Postolonec, l'Anse de la Ber, tout ça a été évidé par différentes venues de la mer. Et donc les falaises schisteuses, les falaises par exemple sur la rade de Brest, elles ont peu d'avenir.
Peu d'avenir.
Il vaut mieux pas construire.
Ça va disparaître si vite.
Écoutez, s'il y a une montée du niveau de la mer, là on nous. Bon, les journalistes exagèrent souvent un petit peu la montée du niveau de la mer. C'est vrai, c'est un fait, ça monte, mais c'est quand même un rythme qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu enregistrer vers 14 000 ans, où la mer a monté en 350 ans, elle a monté de 16 mètres. Alors là, ça, c'est perceptible au niveau d'une génération. Même s'ils ne vivaient pas très vieux, ils voyaient la mer monter, quoi. Là, ils pouvaient le dire. Actuellement, non, c'est de l'ordre de 2 mm, 3 mm par an au maximum. Et encore, faut le mesurer, parce que les marégraphes ne donnaient pas ces valeurs-là au début.
Et donc, ça donne combien de temps aux grottes de schiste?
Ah, les grottes de schiste, là, je ne parierai pas pour très longtemps. Enfin, rien que, par exemple, à Postolonec, il y a une grotte qui contient des superbes fossiles qui sont protégés. Il ne faut pas les jouer avec. Mais des panneaux tombent périodiquement. C'est le devenir. La gravité va jouer son rôle, faire tomber tout ce qui est en surplomb. Et la grotte va progresser dans le sens des surplombs, comme ça. On le voit, d'ailleurs, la progression se fait dans le sens des surplombs. Latéralement. Donc, non, le cap de la chèvre, on peut investir encore, mais comme c'est inconstructible, donc pas de chance. Oui, tout à fait. Mais dans les zones, disons, plus sensibles, je pense, le port de Morgat, il faudra penser à surélever. On a battu l'église, mais le problème, c'est que si la mer monte dans quelques centaines d'années, ce sera peut-être un petit lagon. Oui.
Merci Florentin voilà. Paris. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les grottes marines de la baie de Morgat, origine, diversité, évolution. C'est passionnant. Évidemment, on les adore, ces grottes. C'est une chance de les avoir.
Voilà, merci.